Chers amis, on ne se refait pas, alors pardonnez-moi de grand cœur. Je vais prendre la célébration de la liturgie de la parole sous un angle dominicain. Je suis un dominicain, vous le savez probablement, vous l'avez lu sur votre petit livret, un fils de Saint Dominique, un prêcheur. Et je dois vous avouer que devant vous ce soir, le dominicain n'est pas très à l'aise. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a la réputation d'être bavard, de prêcher longuement, de faire de beaux discours. Et pour ne rien vous cacher, les organisateurs de la nuit de prière n'aident pas beaucoup, parce qu'ils demandent pour la messe d'ouverture de la nuit de prendre son temps. Vous connaissez la messe qui prend son temps avec les jésuites, sans doute. Eh bien, avec le dominicain, vous allez avoir l'homélie qui prend son temps. Pas trop, quand même. L'ennui, c'est que, soyons un peu sérieux, sous cet angle Saint-Joseph, c'est l'anti-dominicain par excellence. Celui dont le silence nous met en garde devant trop de bavardage. Vous savez, parfois, malheureusement, la liturgie de la parole, c'est un peu la liturgie de la parlotte. Je veux dire par là que ces lectures qu'on entend, elles sont parfois bien longues. Oh, on n'y comprend pas toujours grand-chose. Et monsieur le curé, quand il prêche, eh bien, il arrive que on se dise « Cause toujours, tu m'intéresses ». Et c'est un peu dommage. Parce que cette parole de Dieu que nous célébrons, que nous venons d'entendre, c'est la parole de la vie. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui appelle à la vie. Vous vous rappelez peut-être tout à l'heure ma petite conférence. La parole de Dieu qui nous appelle à l'existence. À une existence épanouie, féconde, qui fructifie. Tout cela, c'est la parole de Dieu qui le fait, qui l'accomplit. Et cette parole, bien le mystère de Joseph, de Marie, de la Sainte Famille, cette parole, ce mystère nous invite à l'accueillir maintenant dans la chair. La chair. Le Verbe s'est fait chair. La parole se fait chair. Cette parole de Dieu qui a tout créé depuis le commencement, elle se fait notre frère en humanité, notre Seigneur, Jésus-Christ. Et quel magnifique faire-valoir, quel magnifique écrin que ce silence de Joseph pour accueillir la parole, pour que la parole résonne dans sa plénitude. Certains commentateurs spirituels appellent Joseph le taciturne. Taciturne, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, vous êtes très fort, vous faites du latin. Vous récitez même le chapelet avec des Ave Maria, comme on l'a fait tout à l'heure. Taciturne en latin, ça veut dire celui qui cause pas beaucoup, celui qui ne parle pas. Vous savez, l'évangile, en l'occurrence Saint Matthieu que nous venons de proclamer, et Saint Luc qui complète la relation de tous ces événements, mais plutôt du côté de Marie, eh bien ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance ne nous disent pas grand-chose sur ce qu'a fait Saint Joseph. Mais ils nous en disent encore moins, beaucoup, beaucoup moins, sur ce que Joseph a dit, car précisément, les évangiles ne rapportent de Saint Joseph aucune parole. Aucune parole. Comme si, par son silence, Joseph voulait se faire le serviteur du mystère extraordinaire qui prend corps, qui prend chair dans le sein de son épouse. Ce mystère sur lequel il ne met pas la main, qu'il accueille avec une chasteté parfaite, une pureté de cœur inouïe. Joseph, le silencieux, Joseph, qui n'a rien dit, en tout cas dont les évangiles ne nous ont rapporté aucune parole. Zacharie, le père de Jean le Baptiste, lui, il laissera éclater une très grande prière d'action de grâce. Vous la connaissez sans doute. C'est le Benedictus. On le chantera au petit matin dans la prière des Laudes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Et oui, Zacharie avait été rendu muet. Et voilà que quand le petit Jean-Baptiste naît, il laisse éclater sa joie, il la chante, il la formule. Rien de tel pour Joseph. Pas de Magnificat non plus pour Joseph. Le Magnificat, la grande prière d'action de grâce de la Vierge Marie, celle que l'Église reprend tous les soirs dans l'office des Vêpres. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. La joie débordante de Marie, c'est magnifique. Mais rien de tel pour Joseph. Et puis, puisque nous prions toute la nuit, dans quelques dizaines de minutes après la messe, il y aura le chant des complis. Et ce chant des complis, il culmine, vous le savez aussi, dans l'hymne qu'on appelle le Nunc, le cantique qu'on appelle le Nunc Dimittis, c'est-à-dire le cantique du vieux Siméon, quand il accueille l'enfant Jésus dans ses bras au temple de Jérusalem. Marie et Joseph lui présentent l'enfant. Et Siméon s'exclame : « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et rien de tel, une fois de plus, pour Joseph. Décidément, notre liturgie de la parole ce soir, elle serait bien maigre s'il n'y avait pas, de toute évidence, le désir non pas de remplacer ce silence, de remblayer, mais plutôt de lui donner toute sa valeur pour qu'il devienne la caisse de résonance du mystère qui s'accomplit dans la vie de Joseph et de Marie. Joseph le taciturne, Joseph celui qui se tait pour que la parole de Dieu faite chair en Marie prenne toute la place devant nous. Quelle humilité, frères et sœurs! Quelle sainteté! D'une certaine manière, la tradition de l'Église ne mettrait en concurrence avec Joseph que la Vierge Marie elle-même, la toute sainte, l'Immaculée, et peut-être en allant du côté de nos frères et sœurs d'Orient, la belle et grande figure de Saint Jean-Baptiste. Quand j'étais un tout jeune frère dominicain, au noviciat, nous avions l'habitude de nous chamailler avec un autre frère. Le débat consistait à savoir qui était le plus grand saint après la bienheureuse Vierge Marie. la toute pure, la toute immaculée. Pour les uns, c'est Saint Jean-Baptiste, pour d'autres, c'est Saint Joseph. Mais peu importe, là encore, ne nous laissons pas disperser dans des bavardages inutiles. Ce que je voudrais vous donner à contempler ce soir, frères et sœurs, et à goûter, à savourer, c'est à quel point Joseph a été un serviteur de la parole faite chair. Il a mis, et c'est sa vocation, c'est l'appel de Dieu dans sa vie qui vient tout bouleverser, mettre un petit peu les choses en souffrance, sans doute, dans un premier temps, parce qu'il ne s'y attendait pas. Pensez donc, mettez-vous à sa place. Il est fiancé avec une femme magnifique qu'il aime de tout son cœur. Et, de toute évidence, elle attend un enfant qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien. Qu'en penser ? Dans l'évangile que nous avons entendu il y a quelques minutes, on disait que Joseph prit chez lui l'enfant et sa mère. Et à plusieurs reprises, saint Matthieu va reprendre cette expression. Joseph prit l'enfant, pas son enfant, car il n'en est pas le père. Il n'en est pas le père biologique. Il en est, comme on dit dans le langage de l'Église, le père putatif. Vous êtes vraiment très très fort maintenant en latin, et vous savez peut-être que putare en latin ça veut dire estimer, penser. On pense, tout le monde pense à Nazareth que Joseph est le père de l'enfant, mais non. Lui, il est bien placé pour le savoir, il est aux premières loges du mystère qui s'est accompli dans le sein de Marie, et dans un premier temps, cette loge, elle est très inconfortable. À tel point que Joseph s'est même mis en tête de se retirer, de laisser toute la place à ce mystère trop grand pour lui, en répudiant en secret Marie, pour qu'elle n'ait pas d'ennui, car la loi juive aurait été très dure avec cette femme qui portait un enfant qui n'était pas celui de son fiancé, de son mari. Quelle épreuve ! Oui, mais voilà que la parole de Dieu, celle que Joseph met tout son cœur à servir, cette parole, elle fend l'épreuve. Elle fend la difficulté comme jadis elle avait fendu la mer Rouge devant Moïse et les Hébreux, les ancêtres de Joseph. La parole de Dieu fend la difficulté, cette nuit épaisse qui s'est abattue sur l'intelligence de Joseph. Et elle éclate dans la lumière de ce songe où l'ange du Seigneur lui dit « Joseph, ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur. » La même parole que celle qui est adressée à Marie par l'ange Gabriel. « Ne crains pas. » Souvent nous avons peur de Dieu. Quand Dieu se manifeste, quand son appel retentit dans notre vie, la vocation. Quand il nous appelle, parfois nous sommes mis en difficulté, nous sommes mis en souffrance, nous ne comprenons pas bien, nous nous demandons ce qui va arriver. N'aie pas peur, n'ayez pas peur, frères et sœurs, comme nous le disait dès les premières minutes de son pontificat le saint pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Vous êtes remplis de l'Esprit du Christ. Vous êtes porteurs de cette même parole de Dieu qui a pris chair dans le sein de Marie, qui vient visiter Joseph en songe. N'ayez pas peur de tout ce qui semble tellement contraire au déploiement de l'Évangile dans notre vie aujourd'hui, dans notre société, dans notre cité. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le mal ne vaincra pas. Comme l'a dit aussi le pape Léon XIV, dès les premiers instants de son pontificat. Toutes et tous, vous êtes aimés de Dieu, d'un amour, disait-il, le pape Léon, d'un amour inconditionnel, un amour pour lequel Dieu ne pose aucune condition, un amour qui est pour toutes les personnes que cette terre porte dans l'existence, même celles qui n'aiment pas cet amour, même celles qui l'ignorent, même celles qui le bafouent. Voilà la parole qui vient fendre la nuit de Joseph. Joseph, ne crains pas, n'aie pas peur. Le mystère qui s'accomplit dans le sein de Marie est plus grand que toi, c'est sûr. Mais c'est un beau mystère. C'est un mystère de joie et de lumière qui va réjouir l'humanité tout entière, qui va faire resplendir le salut du Dieu d'Israël, ce salut qui avait été promis à Abraham. On l'a entendu dans la deuxième lecture. Ce salut qui a été promis à David, le roi d'Israël, à son fils Salomon. C'était la première lecture. Ce salut que toute l'histoire sainte du peuple d'Israël a préparé, a attendu, souvent dans les longues, longues convulsions d'un enfantement qui dure des siècles, pour que la parole de Dieu se fasse chair dans notre humanité, sur notre terre. Ce salut, Joseph, voilà qu'il a commencé à germer dans le sein de Marie. Et Dieu t'appelle à mettre toute ta vie au service de ce grand mystère. C'est ça une vocation dans la communauté chrétienne, dans l'Église. Quand la parole de Dieu vient nous saisir, oh, elle nous bouleverse, elle fait bouger les lignes, parfois c'est inconfortable. Mais elle vient nous saisir pour nous donner plus grand, plus beau, et pour nous inviter à mettre toute notre vie au service de ce projet extraordinaire que Dieu vient accomplir, son dessein bienveillant, son dessein de salut. Voilà à quoi Joseph va maintenant consacrer toute sa vie. Il va se mettre en quatre, très probablement, ce brave charpentier de Nazareth, pour accueillir Marie et l'enfant qu'elle porte sous son toit, pour protéger cette épouse et cet enfant, pour les conduire à Bethléem quand sera venu le temps de la nativité. Quelle épreuve cette naissance, loin de la maison confortable sans doute, pauvre certes, mais plus confortable que les tables qui les attend. Ce recensement mal fichu qui nous amène à nous demander, mais qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il s'est trompé d'horloge. La pendule n'est plus à l'heure. Mais non, Joseph, ne crains pas. Marie, n'aie pas peur. Dieu vous conduit. Dieu conduit les événements de notre histoire. Joseph, qui va devoir affronter plus dur encore l'épreuve d'Hérode, qui veut la mort de cet enfant, le massacre des saints innocents, la fuite en Égypte. Et là encore, il faudra que la parole du Seigneur vienne fendre la nuit, se fraye un chemin à travers cette épreuve incompréhensible, pour que, au cours de deux autres songes, Joseph soit rassuré, et que la parole du Seigneur lui dise par l'ange du Seigneur, « Joseph, emmène l'enfant en Égypte pour le protéger, et plus tard, Joseph, ramène l'enfant sur la terre de tes pères. » Tout cela se produit en songe. Vous l'avez peut-être remarqué, frères et sœurs, Joseph, c'est l'homme au songe. Et cette belle expression, l'homme au songe, en réalité, elle a été utilisée dans le livre de la Genèse pour parler d'un autre Joseph, le patriarche, le fils de Jacob, l'arrière-petit-fils d'Abraham, si vous préférez. comme pour nous dire qu'il y a une longue, longue, longue histoire qui se prépare depuis des siècles et dont Joseph est maintenant le témoin privilégié. Et comme témoin privilégié, il s'incline, serviteur silencieux de cette parole. Alors, j'ai commencé en vous disant que le dominicain ne serait pas très à l'aise pour parler de Saint Joseph. En vérité, un peu quand même. Parce que Joseph, il incarne à la perfection cet idéal que nous essayons de vivre dans un ordre religieux comme le mien. Cet idéal que la Vierge Marie elle-même a vécu bien mieux que nous, bien avant nous. Vous savez, cet idéal qui fait un bon juif, une bonne juive, un bon fils, une bonne fille d'Israël, c'est-à-dire une femme, un homme qui écoute la parole de Dieu. Écoute Israël, Shema Israël, Deutéronome 6. C'est le premier de tous les commandements, tous les autres vont pouvoir en découler. Parce que si on n'écoute pas la parole de Dieu, Dieu aura beau nous dire « fais ceci, ne fais pas cela », on n'entendra pas. Tous les amis de Dieu dans la Bible, leur première et grande qualité, comme Joseph, comme Marie, comme Abraham, Jacob et tant d'autres, c'est qu'ils écoutent la parole de Dieu. Écoute Israël. Joseph écoute la parole de Dieu. Il la garde dans son cœur et il la met en pratique. Je vous disais que Joseph ne dit rien dans les Écritures. Oh oui, il ne parle pas, mais il s'active et il s'active vite. À peine est-il sorti du songe, à peine est-il réveillé, qu'il se met à l'œuvre. Il passe à l'action pour servir le projet de Dieu et accomplir cette parole qui lui a été transmise. Ça vous dit pas quelque chose, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui la garde dans son cœur et qui la met aussitôt en pratique? Vous ne connaissez pas quelqu'un qui a cette qualité extraordinaire et qui le fait à plein régime? Oh, c'est une belle personne. C'est Marie. Marie, à l'Annonciation, elle écoute la parole de Dieu, elle l'accueille en elle. Saint Luc nous dit à deux reprises qu'elle la garde dans son cœur, qu'elle la médite, et elle la met en pratique. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, dans mon ordre religieux, chez les dominicains, on dit qu'elle est Notre-Dame des prêcheurs, la première de tous les prêcheurs, de toutes celles et ceux qui sont appelés à porter la parole de Dieu. Et oui, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous la méditez pas, si vous la gardez pas dans votre cœur, vous ne pourrez pas la mettre en pratique. Et si vous l'écoutez, que vous la gardez, mais que vous la mettez pas en pratique, alors la belle affaire. Marie, pour nous, elle est exemplaire. Elle écoute la parole de Dieu, elle la garde dans son cœur, elle la médite, elle lui fait porter du fruit, et elle la met en pratique. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Sainte Vierge, elle a déteint sur les gens qui vivaient auprès d'elle. Elle a déteint en bien. Et oui, évidemment, d'éteindre sur les autres, en général, c'est pas très positif. Quand je dis cela, au contraire, Marie, elle a déteint en bien. Par exemple, bien des années plus tard, aux noces de Cana, qu'est-ce qu'elle dit aux serviteurs? Tout ce qu'il vous dira, Jésus, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Autrement dit, Marie dit au serviteur des noces de Cana, « Écoutez mon fils, écoutez Jésus, il est la parole de Dieu, faite chair. Écoutez Jésus, écoutez la parole de Dieu et mettez-la promptement, avec joie, en pratique. » Ça a marché. Grâce à cette attitude de Marie, aux noces de Cana, le vin des noces a coulé, et pas qu'un peu, s'il vous plaît, à flot. 600 litres, paraît-il, de très bon vin, après qu'ils eurent déjà beaucoup bu. C'est dire que notre Dieu aime communiquer la joie et la fête. Eh bien, si on remonte quelques 30 années en avant, en amont, on s'aperçoit que bien avant de déteindre en bien sur les serviteurs des noces de Cana, Marie a déteint en bien d'abord, j'allais dire sur l'homme de sa vie, son mari qui l'a accueilli sous son toit, même s'ils ont gardé la virginité dans la chasteté la plus grande et la plus parfaite, comme nous l'enseigne la tradition de l'Église, c'est une vraie famille, la Sainte Famille. C'est une vraie paternité que Joseph a exercée, même s'il n'était que le père adoptif de Jésus. Et dans cette famille, visiblement, Marie a appris son premier disciple, ça a été Saint Joseph. Son premier disciple a appris d'elle comment accueillir la parole de Dieu, l'écouter, la mettre en pratique. Mais si nous pouvions le faire avec la même simplicité de cœur et la même joie de vivre que Marie, Joseph, les serviteurs des noces de Cana et tant d'autres après eux, tous ces saints et saintes de Dieu que nous avons chantés tout à l'heure quand nous avons béni les nouvelles bannières, c'est leur dénominateur commun. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils la mettent en pratique. Eh bien, frères et sœurs, que à l'école de Marie, de Saint Joseph, de la Sainte Famille, nous puissions, nous aussi, apprendre petit à petit à accueillir l'appel de Dieu dans notre vie, à accueillir cette parole, à la méditer, la garder et la mettre en pratique pour que le plan de Dieu s'accomplissent en plénitude et que tous les hommes soient sauvés. Amen.